Bien, bonsoir à toutes et tous. Monsieur Benoît Sanchez.
Présent.
Monsieur Denis Dussargue.
Présent.
Monsieur François Morand.
Présent.
Monsieur Guy Soulavie.
Présent.
Monsieur Rodolphe Pérez.
Présent.
Monsieur Christian Perron.
Présent.
Monsieur Jean-Louis Grappin.
Présent.
Madame Marie-Claude Bompard.
Présent.
Monsieur Claude Raoux.
Présent.
Madame Marie Calero.
Présent.
Madame Marie-France Nercessian. Monsieur Pierre Michel. Madame Christine Fournier est excusée à donner pouvoir. Monsieur Jean-Marie Vasse est excusé à donner pouvoir. Madame Jacqueline Morel. Monsieur Claude Besnard. Madame Thérèse Plan. Monsieur Pierre Massard. Madame Laurence Desfonds. Monsieur Serge Fleury est excusé à donner pouvoir. Madame Sophie Chabanis va arriver. À donner pouvoir. Monsieur Hervé Flaugère est excusé à donner pouvoir. Madame Estelle Amaya Rios. Monsieur Jean-Claude André. Madame Marie-André Altier. Monsieur Claude Raffinesque est excusé à donner pouvoir. Madame Virginie Vicente. Monsieur Serge Basté. Madame Nicole Chassagnard. Madame Cathy Ricard. Elle va arriver. Bien, la question numéro 1, il s'agit de la nomination du secrétariat de séance. Conformément au Code général des collectivités territoriales, il est proposé à l'Assemblée de désigner son secrétaire de séance, et notamment Madame Laurence Desfonds. Qui s'abstient ? La Ligue du Sud. Qui est contre ? Dossier adopté à la majorité avec Monsieur Besnard et Monsieur Massard. Question numéro 2, il s'agit de l'approbation du procès-verbal de la séance du 5 novembre 2019. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, je soumets aux voix. Qui s'abstient ? La Ligue du Sud et le Rassemblement National. Qui est contre ? Dossier adopté à la majorité avec M. Massard. Question numéro 3. Il s'agit d'une subvention exceptionnelle en faveur de la commune du Teil à l'occasion du séisme du 11 novembre dernier. Vous le savez, le 11 novembre dernier, un séisme de magnitude de 5,4 a frappé la ville du Teil en Ardèche. La commune a subi des dégâts considérables et exceptionnels qui se chiffrent en millions d'euros. À ce jour, 895 habitations sont touchées, de nombreux édifices publics sont détruits, 4 écoles, l'espace culturel, 2 églises, le centre socioculturel, de nombreuses voiries, une partie de l'hôtel de ville. Le maire du Teil, Olivier Péverilly, a lancé un appel solennel aux dons à toutes les communes et intercommunalités de France. La communauté de communes souhaite s'inscrire dans cette démarche de solidarité à hauteur d'un euro par habitant. C'est pourquoi je vous propose d'allouer une subvention exceptionnelle à hauteur de 24 103 euros sur la base de la population légale 2016. À la commune du Teil. Il est proposé au Conseil de décider de m'autoriser à verser cette subvention et de me donner pouvoir pour signer tout document relatif à cette décision. Y a-t-il des questions ? Monsieur Massard.
Oui, c'est une interrogation, hein, parce que vous êtes censé, je crois, en tant que président, représenter toutes les communes. Et donc, cette généreuse subvention est tout à fait loué, compte tenu que cette commune vit une catastrophe et en même temps aussi des souffrances et il doit se reconstruire. Ce qui m'étonne, c'est pourquoi la ville de Bolène a mis une question sur la ville du Teil avec une subvention de 1 000 euros. Est-ce qu'il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas de solidarité commune pour ces genres de choses ?
Bon, vous aviez l'occasion, Monsieur Massard, de poser la question au Conseil municipal, puisque vous siégez dans les deux assemblées.
Oui, mais je suis arrivé en retard, vous savez, à cause
bon,
de...
Bon, bah, écoutez, alors soit vous voulez qu'on vous réponde, sinon vous poserez une question par écrit, mais je crois que ce n'est pas le lieu pour...
Très bien.
Y a-t-il d'autres interventions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 4, il s'agit d'une convention conclue entre l'État et notre collectivité en application de l'article du Code de la Sécurité sociale pour la gestion de l'aire d'accueil des gens du voyage pour l'année 2019. Monsieur Sanchez.
Oui, merci Président. Effectivement, donc cette question du rapport numéro 4 est une convention qui est conclue entre l'État et la CCRLP. Donc je vous renvoie au document joint en annexe qui est effectivement, s'il vous plaît, merci... qui effectivement rappelle les modalités de la convention. Donc nous sommes sur 35 places avec des financements qui concernent un montant fixe hein, qui est déterminé pour 23 730 euros et un montant variable déterminé sur 19 697,63 euros, ce qui fait un montant total de 43 427,63 euros pour l'année 2019. Donc ce qui vous est demandé effectivement au travers de cette délibération, c'est d'approuver les termes du projet de convention joint conformément à l'article L851-1 du Code de la Sécurité sociale et d'autoriser le président à signer la convention constitutive et à prendre tous les actes nécessaires à sa bonne exécution. Merci.
Merci. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, je soumets aux voix. Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 5. Il s'agit du transfert des parcelles communales situées dans la ZAC Panroparc. Monsieur Sanchez.
Oui, merci. Donc, effectivement, juste pour cette question-là, je vous ferai grâce de tous les vus, mais vous donnerai quand même quelques précisions sur l'historique tel que je l'ai vécu. Et en ce qui concerne les considérants, on y reviendra. Donc, sur les vus, effectivement, moi, ce que je voudrais rappeler, c'est que en mars 2018, une visite des lieux avait été faite avec une discussion autour des prix. Par rapport à ce qui avait pu être proposé dans le cadre du transfert des compétences de la ville de Bolène et ce qu'on voulait, je dirais, au niveau de la communauté de communes. Donc on est tombé d'accord après cette visite sur des prix. Ensuite, effectivement, la délibération avait été présentée deux fois au conseil communautaire avec... Donc pas d'avis unanime en ce qui concerne cette question, donc elle avait été reportée pour après faire le tour des communes et enfin, je dirais, délibérer le 18 décembre 2018 en ce qui concerne donc ces prix et cette zone. La réglementation dit qu'effectivement, un an après la délibération, on peut encore effectuer un transfert en pleine propriété. Donc le 18-12-2018 nous rappelle au 18-12-2019. Donc ce qu'il est proposé en finalité dans cette délibération, c'est de pouvoir effectivement prolonger le délai, le proroger en tout cas, pour pouvoir effectivement exercer un transfert en pleine propriété. Dans le cadre des échanges avec les différentes délibérations, il y avait une estimation des domaines qui avait été transmise en janvier 2019. Elle était valable depuis le 26-06-2017 et d'une durée de 18 mois. Donc effectivement, une deuxième a été demandée, non transmise, mais elle revenait sur la valeur des prix initiales. Elle a été demandée le 28-01-2019 pour une période de 6 mois, ce qui a permis effectivement à la commune de Bolène de délibérer sur le transfert au mois de mai 2019. Donc, vous verrez dans la délibération et les considérants que l'estimation des domaines était pour un montant de 1 228 000 euros et que la proposition de prix avec accord entre la communauté de communes et la mairie de Bolène est de 1 811 640. Donc, ce qu'on demande aussi, c'est d'avoir, pour préciser cet égard de prix, on a besoin, une demande a été faite de certificat d'urbanisme opérationnel à la commune parce qu'effectivement entre le règlement du PLU de la commune et certains articles de l'orientation d'aménagement programmé qui a été modifié en 2017. Alors modifié, le transfert des zones avait été fait en janvier 2017 et une modification a eu lieu au travers de l'OAP, une modification du PLU. Donc, qui précise en fait deux petites choses, cette OAP par rapport au règlement de la zone du PLU, qui sont, une partie qui est en logistique, qui avait été vendue par la ville de Bolène avant le transfert des compétences, et une autre partie, effectivement, pour lesquelles la ville de Bolène est toujours propriétaire, et on se doit, effectivement, de l'acheter au prix où on a tous délibéré, mais sur laquelle... Les activités industrielles et artisanales sont admises, mais pas forcément les activités à vocation de logistique. Donc ce CU opérationnel permettra de préciser l'éventualité de venir effectivement voir ce qu'on peut y faire. Et ensuite, dans le règlement de la zone, ceux qui situent la zone voient qu'il y a du réseau de transport électrique, donc RTE, avec de nombreuses lignes qui aussi amènent et grèvent de servitude certaines parcelles. Donc voilà, il y a un article du règlement en zone U, en zone pardon, UZI2, qui dit que il y a certaines constructions qui ne peuvent pas excéder une certaine hauteur. Donc on avait besoin effectivement de ces précisions là. Donc juste de confirmer cette délibération. Donc de confirmer, hein, considérant les éléments qui précèdent, que le principe de transfert en pleine propriété des parcelles appartenant à la commune de Bolène située sur la ZAC Pan-Europarc au prix donc de 1 811 640, dans les mesures où ces terrains ont pleinement vocation à être aménagés et construits pour les activités de logistique, et de proroger, donc ce que je vous disais tout à l'heure, l'autorisation accordée par délibération du 18 décembre 2018 au président de la communauté de communes, afin de réaliser toutes les formalités nécessaires au transfert de ces parcelles, des réceptions ou à réception du certificat d'urbanisme opérationnel demandé, devenu définitif comme étant purgé de tout recours ou retrait. Voilà.
Merci, M. Sanchez. Y a-t-il des questions ? M. Massard.
Oui, beaucoup de Bolénois se posent la question de savoir pourquoi la communauté de communes, lorsque tout le monde savait que les compétences des ZAC, des zones industrielles et des zones d'activité allaient être reprises par la communauté de communes, comment se fait-il que la communauté de communes n'a pas racheté directement à la CEMI plutôt que d'avoir une manipulation comme il y a eu en 2018, c'est-à-dire qu'en septembre, c'est la mairie qui a racheté à CEMIB et ensuite la mairie qui vous revend beaucoup plus cher ce qu'elle a acheté à la CEMIB. Donc voilà, donc c'est une question que posent certains Bolénois, parce que c'est quand même l'argent des contribuables. Hein, voilà, donc c'était juste une question.
Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Madame le maire.
Je ne sais pas si je dois répondre à monsieur Massard, parce que, ayant fait partie de cette majorité, ayant expliqué maintes fois ce qu'était cette ZAC, comme à vous d'ailleurs, monsieur Zilio, je vois que la compréhension se fait toujours pas, et c'est embêtant. Alors, je vais être beaucoup plus claire que monsieur Sanchez, bien évidemment, puisqu'il a, par des, comme dirait mon ami Marie, tenté d'embrouiller les cerveaux. Eh bien, c'est pareil, monsieur Sanchez.
Excusez-moi.
Tentative de mélanger ce qui tout à fait ne doit pas être mélangé et qui est très clair. Pourquoi est-ce très clair ? Parce que quand on prend une délibération, c'est la loi, c'est comme ça. Nul ne peut y échapper. La délibération, à partir du moment où elle a été votée, comme c'est le cas ici, dans cette séance, en plénière, à l'unanimité, comme ça a été le cas dans les villages, à l'unanimité, comme ça a été dans le cas à Bolène, à l'unanimité, alors elle s'applique. Elle s'applique, hormis si pendant les 4 mois qui vous sont donnés pour revoir votre position, vous la revoyez, sauf que ça ne s'est pas passé, c'est-à-dire que elle a été votée partout à l'unanimité en connaissance des prix et du terrain. Tout était connu, tout était écrit, puisque je rappelle, ça a été plus d'un an de discussion entre la ville de Bolène et l'intercommunalité, plus d'un an. Au bout d'un an, effectivement, la délibération est prise ici, comme je le disais, en 2018, puis par les maires ici présents, à l'unanimité, et par moi-même et mon conseil, à l'unanimité, y compris la voix de M. Zilio et de Madame, qui sont des élus d'opposition. Donc, elle s'applique en tant que telle. Elle ne peut plus légalement supporter aucune modification. C'est la loi. C'est comme ça. Donc, ça pourrait être tout, mais ça n'est pas tout. C'est qu'au bout d'un moment, quand même, ne voyant pas venir cette délibération, la signature de l'acte, je demande au notaire où on en est. Les notaires me disent, mais Madame le maire, je croyais que c'était eux qui ralentissaient. Madame le maire, nous en avons donné un exemplaire à la ville et un exemplaire à l'interco. Chacun doit faire ses remarques. Nous avions fait les nôtres, on attend l'interco. Répond ou pas, je ne sais pas, je ne suis pas dans les affaires. Mais en tout cas, nous est donné une date de signature du 27 novembre pour signer ce qui est en fait la véritable acte de vente, c'est-à-dire la délibération. C'est la délibération qui est un véritable acte de vente. La signature n'est que la concrétisation et le versement de 1,8 million que vous nous devez. Le 26, la veille, en commission des finances, M. Zilio fait savoir qu'il ne viendra pas parce qu'il veut changer, il demande qu'on change au PLU la nature donc de la dénomination, c'est-à-dire comme c'est en artisanat et en industrie, il veut que ça passe en logistique. C'est tout à fait possible, sauf qu'il n'y a pas de clause de suspensive ou quoi que ce soit dans la délibération, et elle doit être votée telle qu'elle est votée, c'est la loi. Donc il dit qu'il ne viendra pas parce qu'il n'y a pas de changement de ZAC. Mais il n'y a pas de problème, monsieur paye, le transfert est obligatoire. Il paye et puis après il demande à la ville une modification du PLU, il n'y a aucun problème. On peut le modifier, il n'y a aucun problème. Il ne vient pas à la signature. Moyennant quoi, il y a une nouvelle demande que l'on envoie par huissier cette fois. Le rendez-vous nous est donné par maître, par les notaires, au 13 décembre, vendredi dernier. Le 13 décembre, donc, M. Zilio dit officiellement par un message à mettre au notaire à 21h le soir qu'il ne serait pas là le lendemain, donc vendredi dernier. Pas si vous voyez. Hein. À 21h, le notaire reçoit ce texto. Nous nous rendons quand même à la signature. Monsieur Claude Raoux, ici présent, qui a toute autorité pour signer à ma place. Parce que ce jour-là également, je siège au conseil départemental à Avignon. Claude se rend Monsieur Raoux se rend à la signature chez le notaire avec une invitation, une convocation officielle par huissier à tout le monde. Monsieur Raoux vient, Monsieur Zilio, qui ne devait pas venir puisqu'il avait envoyé un texto la veille à mettre au notaire, arrive, je ne sais pas vers quelle heure, 11h30, quelque chose comme ça, ou 11h. Je suis en séance plénière, mais à midi, mon directeur général des services m'appelle et il me dit, Madame le maire, Monsieur Zilio est là, contre toute attente, contrairement à ce qu'il a dit au notaire, pouvez-vous monter, s'il vous plaît, il est prêt à signer. Il est midi, je dis oui, je me dépêche, je quitte tout et j'arrive. Je pars d'Avignon, je mets un temps excessivement court pour arriver. Arrivé au niveau de Mondragon, ça vous fait sourire, pas moi, madame. Arrivé au niveau de Mondragon, je reçois un nouveau texto de mon directeur général, un appel de mon directeur général des services qui me dit, madame, il est reparti, il nous a dit qu'il partait, mais qu'il allait revenir. En fait, il est parti, monsieur Zilio est parti, et il renvoie un message, après avoir dit qu'il revenait, il envoie un message au notaire, stupéfait, dans lequel il dit, mais je ne reviendrai pas. Donc, je fais le parcours à toute vitesse, parce que je suis encore, comment dirais-je, je réponds aux caprices de M. Zilio, une fois de plus, insensé, c'est insensé. Et M. Zilio, M. Miyou, il me dit, il signe, venez, il nous dit qu'il signe. Je pars d'Avignon, j'arrive là, il est parti, et il dit, je vais dîner, j'ai un dîner officiel, et puis de toute façon, j'ai pas de date. Il nous avait dit qu'il n'avait pas de date jusqu'au mois de janvier. Bon, or là, il vient, en ayant dit la veille qu'il ne venait pas. Et quand j'arrive, il est parti. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer un peu le manque de respect de sa charge, des délibérations qui sont prises en l'unanimité, du manque de sérieux, du je m'en foutisme de ce personnage, parce qu'il n'y a pas d'autre nom. Même les notaires sont sidérés de votre attitude. Aujourd'hui, on nous demande de prendre une délibération qui ne peut pas exister, parce que dans la délibération, tout doit être noté. Il n'y a pas de délibération, il n'y a pas d'avenant. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? C'est un avenant à une délibération. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et j'en veux pour preuve. Alors, nous avons pris conseil auprès d'un avocat, bien évidemment, qui, évidemment, nous dit, celle de ce soir est totalement illégale. Elle est totalement illégale parce qu'il y a eu la délibération de 2018, voté ici le mois de décembre, qui établit, par des élus démocratiquement élus, hein, qui établit un acte administratif individuel créateur de droits. Cette délibération nous a donné le droit de vendre ce terrain et d'en toucher en contrepartie 1,8 million, évaluation actée dans les délibérations. Je n'ai pas inventé le prix, j'ai pas aujourd'hui, on nous raconte un blablabla impressionnant. Le prix est dans la délibération. La chose et le prix sont dans la délibération. Elle est incontournable. Elle est incontournable. Voilà. Eh bien, je vais vous dire à quoi joue M. Zilliot, parce qu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. Il espère qu'en ne signant pas, en repoussant, en inventant des choses qui n'existent pas, eh bien, nous avions inscrit, vous vous doutez bien, le 1,8 million en rentrée financière dans le budget. 1,8 million. M. Zilliot croit tout bêtement qu'en ne nous versant pas ce 1,8 million, je serai en difficulté dans le budget que je vais présenter de 2020 et dans notre budget 2019. Et que donc, comme ça, arrivé aux élections, il pourra communiquer sur le fait, oh là là, ville mal gérée. Sauf que le 1,8 million, il est inscrit, en reste à réaliser, puisque la vente devait avoir lieu. Donc voilà à quoi joue un président d'intercommunalité, avec des affaires sérieuses, avec des choses qui sont établies juridiquement, légalement. Ça n'existe pas, ce que vous faites, monsieur, n'existe pas. C'est contraire à la loi, c'est donc illégal. Et vous vous moquez de votre propre parole, des engagements des maires qui siègent avec vous, hein. Vous vous moquez de tout, et des Bolénois, et des électeurs, et c'est à proprement scandaleux. Voilà. Alors, je dois dire que quand on a peu de ressources, d'honnêteté, quand on a aussi peu conscience du rôle que l'on a, parce que vous n'êtes, monsieur Zilliot, vous êtes détenteur d'un pouvoir provisoire qui vous est donné par des électeurs. Quand vous vous rendez à une signature, c'est pas en votre nom, monsieur Zilliot, c'est au nom des gens qui vous ont mandaté. Ça n'est pas en votre nom. Tony Zilliot, Marie-Claude Bompard n'existent pas. Ce sont nos délégations, notre droit qui nous est donné par nos électeurs, et en particulier par les élus qui sont ici. Vous ne pouvez pas y revenir. Donc, moi, je vais vous dire, mesdames, messieurs, j'en ai assez. Assez de répondre à des caprices de quelqu'un qui n'est même pas élu, parce que vous n'êtes même pas élu, n'est-ce pas ? C'est grâce, je dirais, à des petits arrangements qui font sourire certains d'entre eux, qui faisaient sourire à l'époque. Je sais qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup moins qui sourient de ce que vous faites. Et c'est par ce biais-là, par des petits arrangements politiciens, que vous avez été placé à ce poste. Or, en aucune manière, vous n'êtes digne d'être sur ce poste. Voilà, c'est pourquoi, eu égard au peu de respect que vous avez sur votre parole, sur votre vote, sur tout cela, je me vois dans l'obligation de ne plus accorder aucun crédit à cette assemblée. Cette assemblée est respectable. C'est vous, en tant qu'élu, qui ne l'êtes pas. Donc, aujourd'hui, vos délibérations ne comptent pas, ni à vos yeux, ni à celles. Je trouve scandaleux. Voilà, scandaleux. Donc, nous allons quitter cette assemblée. Comment ? Voilà, on arrête là. Et lorsque cette assemblée sera pourvue d'un président, quel qu'il soit, d'un président digne de cela, alors on se donnera le droit de revenir. Mais pas juste tant que vous serez là, monsieur.
Bon, alors, attendez. va attendre que... On va attendre... Aussi. Bien. Écoutez, je vais laisser répondre Monsieur Sanchez, puisqu'il souhaitait apporter des réponses et qu'il est, à mon avis, important de répondre sur ces pratiques.
Non, mais rapidement, Président, parce que effectivement, je voulais juste répondre à la remarque de Mme Bompard sur embrouiller les cerveaux. Effectivement, je ne pensais pas les avoir embrouillés à ce point-là, mais pour éclaircir les cerveaux de ceux qui sont restés, tout simplement. Monsieur Massa, vous parliez tout à l'heure de la CEMIB. Non, mais moi maintenant, et c'est dommage, la CEMIB a vendu ses terrains. 50 hectares de terrain, effectivement, à la ville de Bolène pour 1 135 000 euros. La première proposition de la ville pour 18 hectares de terrain vendus à la communauté de communes, c'est 2 700 000 euros. Après négociation, ces 2 700 000 euros sont devenus 1 811 000 euros. L'estimation des domaines était de 1 200 000 euros. Alors vous avez raison, quand une collectivité vend une autre collectivité, et si vous faites le calcul, c'est très très loin effectivement, et c'est, alors je ne vais pas être ému au point d'avoir les larmes aux yeux et de partir, mais c'est vrai que c'est scandaleux, c'est vrai que c'est scandaleux. Cette délibération, elle disait deux choses. Elle disait qu'il faut faire un transfert en pleine propriété avant la date anniversaire des 1 an, et ce, à la signature de l'acte. Pourquoi ? Sinon, on paye des frais d'acte notarié. Donc, on rajoute encore à ces 1 811 000 des frais et des charges pour encore des terrains qui, par le transfert, doivent aller d'une collectivité à une autre. Et la deuxième raison, et on a précisé dans la délibération, et on confirme le prix qui était accord avec la ville de Bolène de 1 811 000, c'est juste qu'on vient préciser qu'entre les 1 200 000 de l'estimation et les 1 811 000 qu'on paye, on aimerait juste que l'OAP, qui a été grévé au PLU, après le transfert de la compétence développement économique de l'ensemble des zones. Donc, pas de polémique, mais pourquoi ? Voilà, c'est tout. Donc, c'est ce que je voulais dire et répondre. Bon, j'espère que personne ne s'est trouvé embrouillé par l'ensemble de mes propos. Et puis, la parole à ceux qui la veulent.
Bon, je vais répondre, Monsieur Massard, mais je vous laisserai... Je pense que le départ du groupe marque la gêne du moment et du dossier. Ça fait depuis plus de 10 ans, et le problème, c'est pas Zilio avec la ville de Bolène. Ça fait 10 ans, depuis 2009, que la CCRLP souhaite pouvoir aménager la ZAC Pan-Europarc. Et depuis 10 ans, par délibération du 21 avril 2009, l'intercommunalité et les communes s'étaient mis d'accord. C'est bien la ville de Bolène qui, par un cabinet d'avocats, a fait casser ce transfert de ces zones-là, et depuis, on circule de collectivité en collectivité pour savoir. Et je voulais répondre parce que c'est assez surprenant de vouloir défendre le contribuable et les habitants, puisqu'on les représente, disait-elle, alors que les contribuables ont payé 4 fois cette zone. En mars 1994, quand Jean-Pierre Janton bloque ses 120 hectares, à l'époque c'est la CEMAVA qui aménage cette zone-là. Ensuite, la CEMAVA se transforme en CEMIB et il y a une vente. Ensuite, la CEMIB vend à la ville et il y a une vente. Et maintenant, la ville va vendre à l'Interco et il y a une vente. Et donc, ça fait 4 fois que les contribuables payent cette zone alors qu'il n'y a pas une entreprise dessus. Donc, ça suffit. Et donc, c'est pour ça, je vous laisserai parler, Monsieur Massard, mais c'est pour ça que j'ai souhaité des contreparties qui me semblent tout à fait normales. Je voulais poser d'ailleurs des questions. Alors, sur les formalités, j'ai bien compris qu'elle ne vous souhaitait pas entendre la réponse, parce que la vérité, c'est que si Madame le maire s'est déplacée vendredi dernier du conseil départemental à l'étude du notaire, où j'ai attendu 1 heure qu'elle daigne venir, c'est parce que personne n'était habilité à signer. Sinon, elle ne serait pas venue du conseil départemental pour venir signer. J'ai attendu pendant 1 heure, je pense que personne n'aurait attendu 1 heure. Je suis parti à 12:30, je suis arrivé à 11h. J'ai attendu pendant une heure que Madame le maire arrive. Le DGS me disait elle arrive. Et en fait, elle était en séance du conseil départemental. On pouvait l'attendre un moment. Donc, c'est le ridicule. Et c'est parce que c'est l'argent du contribuable, j'insiste, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est parce que c'est l'argent du contribuable que j'ai souhaité des éclaircissements. J'achète pas un terrain à l'euro symbolique. J'achète un terrain à 1 800 000 euros. Et il me semble que quand on achète et qu'on est responsable un terrain à 1 800 000 euros, on doit s'assurer qu'on doit pouvoir faire la logistique. Or, le problème, il est beaucoup plus grave que ça. On pourrait m'assurer aujourd'hui, Madame le maire pourrait me signer un certificat d'urbanisme m'assurant la possibilité de faire de la logistique. Or, aujourd'hui, le problème, il est plus grave. C'est qu'aujourd'hui, en 2017, alors que nous ne gérions pas cette ZAC, puisqu'elle a été transférée en décembre 2018, le 18 décembre 2018, c'est pour ça qu'avant le 18 décembre 2019, il faut qu'on proroge, c'est une délibération de confirmation de la vente. J'aurais pu refaire une délibération à 1,2 million, c'est pas le sujet. J'étais d'accord à 1,8 million. J'ai voté une fois en conseil municipal de Bolène, une fois ici, et on a revoté ici. Donc je suis d'accord sur le prix. Mais à ce prix-là, on fait de la logistique. Et je ne comprends pas qu'en 2017, par un tour de passe-passe, alors que le règlement du PLU prévoyait de la logistique, puisque je vous rappelle que sur les 120 hectares, quand même, il y a déjà deux tiers qui commercialisaient, et c'est de la logistique. Pourquoi on a redécoupé au stylo une zone qui est pile les parcelles qui vont être transférées à l'interco, et on n'y peut plus y faire de la logistique. On peut y faire que de l'artisanal et de l'industriel. Or, je vous le dis, j'ai deux groupes, un groupe international qui veut s'installer sur la ZAC Pan-Europarc et un autre groupe qui est de Belgique et qui veut s'installer sur la zone et qui a besoin de faire de la logistique. Et c'est pour ces raisons-là, c'est pas parce que Zilio il a des difficultés ou il a changé d'avis. Je veux commercialiser cette zone et je veux signer le plus tôt possible. Mais la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas garanti de faire de la logistique. Donc je n'achète pas des terrains pour y laisser de l'agriculture ou pour y mettre des choses qui n'ont absolument rien à voir. Et c'est pour ça que je me suis renseigné donc en commission finance. On avait en commission finance de la ville le 25 novembre, nous avions une délibération qui touchait sur l'avenant au budget de la ZAC qu'on a voté d'ailleurs en conseil, qui est passé en conseil. Je dis à ce prix-là. Est-ce que vous me garantissez de faire de la logistique? On ne me répond pas, on sourit. J'ai compris que tout était déjà ficelé. Donc j'ai dit, à ce compte-là, demain matin, je suis convoqué chez le notaire. Mais si ce n'est pas pour y faire de la logistique, je ne vois pas pourquoi j'y vais. Bon, je l'avertis le notaire. Le notaire vient ici, mais le plus grave, ce n'est pas la question du notaire. C'est que quand Claude Raoux se présente chez le notaire le 26 novembre, quand bien même j'aurais été là, il n'était pas habilité à signer. Il n'était pas plus habilité à signer le vendredi 13 décembre, si bien que Madame le maire a dû venir en urgence du conseil départemental. Sauf que le 26 novembre, ce qu'il faut expliquer, c'est que le 26 novembre, suite au fait que je n'étais pas là, alors que M. Raoux n'avait pas le pouvoir pour signer, j'ai été sommé par le cabinet d'avocats de la ville de Bolène de venir à la prochaine convocation sous réserve d'être traîné devant le tribunal de grande instance de Carpentras ou d'avoir été saisi par la Chambre régionale des comptes. Mais comme ça ne suffisait pas, j'ai vu débarquer dans mon bureau le lendemain un huissier de Carpentras qui me notifiait que le 13 décembre, je devais venir signer aussi encore devant le truc. Je me suis rendu le 13 décembre à 11h à l'étude et j'ai voulu signer. Et le 13 décembre, il y avait une personne qui avait un arrêté de délégation qui n'était pas bon. Et comme il n'était pas bon, le DGS a dit « Madame le maire, venez vite, Monsieur Raoux ne peut pas signer ». C'est ça la vérité. Et donc je me suis retrouvé pendant une heure à Poireauté et je suis parti. Voilà. Pour l'anecdote, j'ai reçu ce matin encore le même huissier dans mon bureau et je suis convoqué vendredi 20 décembre à 14h30 et je continuerai à y aller. Et je suis sûr que cette fois, il y aura Madame le maire. Mais je n'ai pas de difficulté avec cette vente-là. Comprenez une chose, c'est que je veux simplement que les entreprises de logistique qui doivent s'installer sur cette zone, parce que c'est une zone logistique multimodale, je vous rappelle quand même le cahier des charges de cette ZAC à l'origine, avec le ferroviaire, le fluvial et l'infrastructure autoroutière, c'est comme ça qu'elle est née. Et aujourd'hui, la logistique, on me dit qu'on ne peut pas la faire. Donc j'ai une difficulté avec ça. Ça aurait été un euro, comme j'ai signé chez les consorts Morel, pour un parking à côté de l'office de tourisme, j'ai pas trop demandé de questions à un euro symbolique. Mais quand c'est 1,8 million, ça me gêne de signer sans que je sache. Et c'est pour ces raisons que, c'est pas en mon nom, mais au nom des citoyens, que j'ai demandé à ce qu'on puisse y faire de la logistique. Alors, il y a un point qui est majeur, juste je finis. Nous avons déposé, dans le cadre d'un projet, et du projet que je vous précisais, puisqu'aujourd'hui, pour vous dire d'ailleurs l'état d'avancée, nous sommes convoqués, Madame le maire et moi, le 6 janvier prochain, en sous-préfecture de Carpentras, pour justement accueillir ce groupe international qui veut s'installer sur la ZAC et qui veut faire de la logistique. Et je suis très content que le sous-préfet nous ait convoqués, parce que justement, on a des difficultés sur la question de la logistique, et cette entreprise, si on ne change pas, ça ne permettra pas de les installer. J'ajoute au passage que le PLU existant, pour vous dire l'aspect quand même complètement tordu de l'histoire, c'est que le PLU existant prévoyait de la logistique. Le règlement du PLU aujourd'hui prévoit de la logistique sur cette zone. C'est simplement dans l'année 2017 que dans les orientations politiques d'aménagement et de programmation, Madame le maire, voyant la ZAC transférée, a changé les orientations d'aménagement. Et donc on se retrouve dans une parcelle qui est artisanale et industrielle, alors qu'elle savait très bien qu'on avait des prospects de logistique. Donc je veux bien signer à ce prix-là, ça ne me gêne pas, même si ça aurait dû être 1,2 million au lieu d'1,8 million, mais pas pour ne pas faire de la logistique. Et c'est pour ça que j'en fais un préalable avant toute discussion. Monsieur Massard.
Merci, excusez-moi, Président. Alors, Président, depuis 2009, effectivement, cette zone commerciale, artisanale ou logistique a été gelée, totalement gelée, inexploitée. Donc, on a perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, en plus, après qu'on spécule sur la vente d'un terrain pour en faire, parce qu'il y a effectivement des compétences qui sont transférées, vous allez retrouver le même problème à la croisière. Le PLU de la croisière a été fait
exactement.
Il y a 2 ans.
C'est exactement la même chose.
Vous allez retrouver le même problème à la
croisière. C'est exactement la même chose.
Voilà. Alors, non seulement on ne l'exploite pas, mais on le gèle.
C'est
on
ça.
Le gèle pour que celui qui vient acheter derrière ne
Bien
puisse
sûr.
Pas l'exploiter.
Bien sûr. Bien
Alors,
sûr.
Bon, ça, c'est pas grave, mais en attendant, c'est notre argent qui est gaspillé, aussi bien que ce soit la communauté de communes que la mairie de Bolène. Donc là où je suis pas d'accord, enfin là où je suis vraiment en désaccord total, c'est que c'est par rapport à cette vente de la CEMIB, où Madame la maire est présidente de la CEMIB, où elle était maire, et où elle rachète un terrain pour 3 francs 6 sous, qu'elle vous revend très cher. Donc là, je dis, personnellement, c'est un conflit, j'espère qu'il n'est pas d'intérêt. Alors, j'aurais pu le faire devant Madame le maire, bon. Mais elle est partie. Mais je le répéterai s'il le faut, bon. Devant Madame le maire.
Monsieur André.
Cette zone multimodale, en fait, au départ, est mal née. Parce qu'en fait, elle est mal située par rapport à la fois au ferroviaire, au fluvial, à l'autoroute. Et voilà. Donc, c'est pour ça qu'en fait, la dynamique n'a pas joué. Parce qu'en fait, il y avait trop de. Il y a eu des problèmes pour installer une voie ferrée. Il y en avait pour 23 millions pour installer une voie ferrée, 23 millions pour acheter les terrains. À l'époque, c'était il y a 10 ans ou un peu plus. Voilà, donc cette zone est mal née. C'est pour ça que le dynamisme n'a pas eu lieu. Maintenant, je crois que les zones multimodales, je pense que c'est un petit peu stérile. C'est-à-dire qu'on fait venir certainement des matériels de Chine ou de pays à bas coût de production. Et en fait, peut-être qu'il vaudrait mieux faire intervenir de l'artisanat. Ça peut être... plus noble.
Attendez, il y avait Madame Ricard, je crois. Allez-y.
Oui, merci, Président. J'essaie de comprendre avec les éléments que je découvre, hein, puisqu'on n'est pas vraiment dans les détails de toutes ces affaires. Vous dites, Président, donc, qu'il y avait au départ la possibilité de faire de la logistique. Donc, s'il n'y en a plus aujourd'hui, c'est qu'il y a eu une demande de modification du PLU. Il y a eu une modification, une demande de modification. Mais vous ne pouvez pas le faire s'il n'y a pas une demande. Enfin, ça ne se fait pas comme ça de changer les zonages dans les PLU.
Ah non. Attendez, elle n'a pas fini. Allez-y. Mais attendez, elle finit, elle pose sa question. Après, vous aurez la parole, Monsieur Massard. Je vous sens en forme ce soir, Monsieur Massard.
Ah oui, très.
Allez-y, Madame Ricard. Votre micro est coupé en plus.
Voilà. Et de s'occuper surtout de l'intérêt des habitants de ce territoire. Oui, moi je ne crois pas qu'on puisse... Enfin, ou alors sortez-moi les lois. Mais je ne crois pas qu'on puisse changer des zonages comme ça sans qu'il y ait une procédure administrative qui est... à ma connaissance, très complexe, très longue, et qu'on peut vérifier si elle a eu lieu. Enfin, je veux dire, montrez-moi les documents qui font que cette zone, que ce zonage a été modifié.
Ah, vous répondez.
Officiellement.
Attendez, je vais répondre à Madame Ricard.
Mais pas seulement par un souhait. mais non, par non. le document administratif qui fait que vous ne pouvez plus faire de logistique.
Bien sûr. Donc, le zonage par lui-même, dans le règlement du PLU, n'a pas été modifié. C'est plus subtil que ça. C'est-à-dire que la zone UIZ2, qui est la zone qui est concernée sur la ZAC par Aéroparc, est une zone où on y peut y faire de la logistique. Seulement, dans tous les PLU, l'autorité administrative, en l'occurrence le maire, peut et doit fixer des orientations, ce qu'on appelle, ce qui sont des orientations politiques en fait. Je veux voir ça là et ça là et pas oui. de commerce là, mais qu'on appelle orientation d'aménagement et de programmation, les OAP, qui font partie des priorités, des orientations politiques du maire ou de celui qui gère le PLU. Bon. Il s'avère que jusqu'à 2017, le zonage PLU était en accord avec les orientations d'aménagement. On devait faire de la logistique, puisque c'était la ZAC multimodale. Sur ces 120 hectares, on devait en faire de la logistique. Et que, en 2017, c'est un document de la ville qui a été fait et qui a été demandé dans la modification du PLU, on voit en deux parties, violette et rose, et pile sur la surface rose, ce qui a été transféré et ce sur quoi on débat des 1,8 million des parcelles. Et je trouve très surprenant, si on veut y faire de la logistique, qu'on n'ait pas rien modifié et qu'on ait laissé les orientations d'aménagement logistique pour le faire. Donc quand je vais pour signer le 25 au soir et que je demande à Madame la directrice générale des services, c'est bon pour demain, est-ce que par rapport au groupe, je pourrais y mettre de la logistique ? Elle me dit, faites attention, le zonage le permet, mais l'opération d'aménagement, c'est le cabinet Citadia qui l'a fait, à la demande du maire, a fixé des orientations qui sont extrêmement précises, notamment sur artisanal et industriel. Et là où je rejoins M. Massard, c'est que quand j'ai acheté au nom de la collectivité 7 hectares sur la zone de la croisière, il y avait la possibilité de faire de l'activité industrielle. Rappelez-vous, il y avait butagaz, une boule de butane, une boule de propane. Bizarrement, quand on a été propriétaire de ces 7 hectares, 5 hectares sont devenus industriels et 2 hectares sont devenus commerciaux, dans des endroits stratégiques qui ne permettent pas l'activité industrielle, mais qui permettent simplement de mettre des magasins, de supermarchés, des bricomarchés, des hypermarchés, parce que sur le commercial, on peut y mettre que ça. Donc ça veut dire que sur ces 7 hectares, il y en a 2 qui ont été gelés. D'ailleurs, le préfet à l'époque, Jean-Christophe Moreau, s'était étonné et avait demandé à la ville, puisqu'il était venu me voir, il avait dit pourquoi vous changez alors que maintenant qu'on peut le développer, qu'il n'y a plus de PPRT butagaz, il n'y a plus de Céveso, plus rien, c'est le moment d'y aller. Pourquoi ça a été gelé? Parce que dans les opérations d'aménagement, le zonage du PLU n'a pas changé. Les orientations sont toujours les mêmes, le règlement d'urbanisme est le même, mais les orientations d'aménagement, le maire a dit je ne veux pas avoir de logistique sur cette partie-là. Je veux voir de la logistique sur cette partie-là. Et c'est dommage parce que, comme on n'a pas la main sur l'urbanisme, j'ai le sentiment que si on ne demande pas ces clauses dans l'acte, on ne pourra jamais avoir la garantie de pouvoir installer des activités logistiques sur une zone qui avait cette vocation logistique. C'est tout.
Oui, mais un document d'orientation politique, il faut qu'il soit validé par une modification du PLU pour rendre...
Ça a été fait.
On l'a, le document.
Oui, oui, il y est, hein, dans le règlement du PLU.
Je peux vous parler.
Monsieur Massard, allez-y.
Parce que j'étais à l'Urba, donc je connais. Quand j'en parle, c'est parce que je connais bien et je sais comment ça s'est passé. Donc à l'Urba, à l'époque, en 2017, effectivement, Madame le maire avait un projet pour la croisière avec une partie mixité, enfin, il y a une partie habitation et une partie commerciale. Donc là, rien n'a été fait. Le seul qui a vendu son terrain, je crois, c'est un monsieur qui est sur la droite en allant à Pont-Saint-Esprit, là. Et qui, d'ailleurs, les terrains ne sont toujours pas vendus parce que le projet qu'il y avait là, le promoteur a décidé de s'installer plus en ville. Donc il a abandonné le terrain sur lequel il devait construire des lots. Et ils ont fait pareil pour la ZAC. La ZAC, c'était effectivement logistique, puisque le démarrage de l'exploitation de cette zone était logistique. Et on a voulu en faire pareil, du côté de la PALU, que des habitations, et du côté, là où il y a déjà encore, la société Vinci, continuer à faire de la logistique. Il se trouve que la conjoncture économique n'était pas porteuse pour de la logistique, que tous ceux qui avaient des locaux étaient encore vides, donc ils ont stoppé. Mais le PLU a été justifié par ça. C'est pour ça, et vous avez tout à fait raison, on ne peut pas faire un PLU comme ça sur la tête du client.
Sur votre... question, Madame Ricard, je viens de demander à la directrice générale. Donc, on a été consulté, nous, puisque c'était sur une zone d'activité. On a été consulté pour avis, donc on a mis des avis, énormément d'avis de réserve, notamment sur la question logistique à l'époque, quand justement c'était gelé. On a l'ensemble des documents qu'on n'a pas là ce soir, mais on va vous les communiquer. Vous avez l'ensemble des documents qui ont été frappés du sceau du préfet, qui valide cette révision, dont on a été consulté, mais pas entendu, puisqu'on demandait le maintien de l'activité logistique, et que dans la révision, le maire a décidé de mettre l'artisanal et l'industriel. Donc c'est une vraie difficulté, parce que moi je veux bien agir en transparence et en confiance sur la question du développement de l'activité logistique, mais encore faut-il que les prospects que je reçois aujourd'hui puissent voir un jour leur projet se réaliser, ou sinon... La partie qui nous est vendue, pile. Donc,
tenez-vous tant à faire que de la logistique.
On ne tient pas à faire de la logistique parce que sur les deux prospects, il y en a un qui fait de l'industriel. Mais dès lors qu'il fait de l'industriel, il a besoin du stockage. Et donc, il a besoin de faire de la logistique derrière avec des apports camions. Et il me dit aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir scinder mon activité industrielle sur une surface aussi importante et mon activité logistique loin. Et il y en a un, il veut faire que de la logistique. Parce que justement, il n'y a que ça qui l'intéresse aujourd'hui. Et il dit d'ailleurs que c'est un point stratégique, puisque c'est un groupe international que tout le monde connaît, qui veut faire ce qu'il appelle le hub sud, c'est-à-dire pour le sud de la France. Il avait le choix entre Béziers et Bolènes. Il s'est arrêté à Bolènes parce qu'il n'est pas loin de Fos-sur-Mer, là où arrivent des containers. Il est à équidistance entre l'Italie et le Portugal, et qui veut faire de ce site-là un site logistique de stockage pour l'Italie, le Portugal et l'Espagne, pour faire en sorte de développer l'externalisation de sa société. Alors c'est un point qui est important parce que en termes d'emploi, c'est important sur la question de la logistique. La volonté de créer aussi une formation dans les conduites de camions et donc de faire une antenne de formation sur une école de CACES, une école de camions, etc. Et que le projet peut vite s'arrêter. Et d'ailleurs, si bien qu'il est sûrement inquiet, j'ai vu aujourd'hui que le sous-préfet nous convoquait pour faire en sorte de voir cette activité logistique s'installer. Donc, ce qui veut dire que nous ne sommes pas les seuls à nous inquiéter sur ce sujet-là. Voilà.
Et vous n'avez que des contacts pour de la logistique?
Et oui, parce que c'est ce qui semble le plus structurant. On a d'autres contacts, mais qui sont sur des surfaces plus petites. Là, on est sur des 120 000 mètres carrés. On est sur des choses qui sont extrêmement importantes sur la ZAC. On a 22 lots ou 25 lots sur la ZAC, la zone de la croisière, qui sont sur des hauteurs de 1500, 2000, 2500 mètres carrés et qui correspondent plus à de l'activité industrielle. Les personnes souhaitent plus venir ici que sur une ZAC qui n'a pas cette vocation-là. Voilà. C'est pour ça qu'on est principalement sur ça.
Moi, dans ce type, au-delà de toute la forme qui a été relevée ce soir et que je n'ai pas jugé, je trouve ça assez triste de voir ce genre de séance. Et pour vous et pour la mairie de Bolène, moi, ce que je regrette vraiment, et ça nous amène à ça, c'est qu'il n'y ait pas une vraie réflexion sur le type d'économie qu'on veut retenir sur notre territoire. Parce que je ne suis pas au partage de la réflexion, Président, mon grand regret, vous le savez, mais parce que je trouve toujours intéressant qu'on puisse débattre et échanger. Surtout sur le rôle de l'économie, on a un territoire qui souffre parmi l'ensemble des territoires de notre pays. C'est un des territoires qui souffre particulièrement. Donc c'est vrai que la fibre économique doit être une de nos priorités. C'est ce qui m'avait séduit en début de mandat chez vous dans vos paroles. Mais ce que je regrette, c'est que dans tout ce temps que nous avons passé ensemble, il n'y ait pas eu vraiment une vraie réflexion sur quel type d'économie nous voulons vraiment retenir sur notre territoire et surtout se poser la question, essayer d'être un peu plus éclairé et lucide sur l'économie de demain. Parce que je crois que notre société est en pleine mutation. L'économie, la forme de l'entreprise change. Et il faut être d'avant-garde dans les propositions que nous pouvons faire. Et vraiment, c'est un domaine passionnant et je regrette vraiment qu'on n'ait pas passé assez de temps sur une réflexion de fond. Voilà.
Oui, alors, on ne l'a peut-être pas fait avec vous, madame, mais on l'a fait.
On n'a pas vu trop de documents non plus sortir là-dessus.
Vous n'étiez peut-être pas là sur ces documents-là, mais je pense qu'aujourd'hui, sur les orientations économiques, le travail a été fait. Et on est parti d'un endroit qui me semble être très lointain et on est arrivé aujourd'hui à quelque chose qui me semble important. D'abord, redire que la priorité de cette équipe, de la majorité, c'est vraiment de développer l'économie. Et au sortir, puisque vous me donnez l'occasion de parler de ce qui s'est fait durant ce mandat, je pense que nous pouvons être fiers des orientations que nous avons posées. Parce qu'au-delà de l'activité nucléaire, qui est le premier secteur d'activité de ce territoire, qui emploie 4500 directement et indirectement personnes sur ce territoire, on se retrouve dans une mono-industrie qu'il faut diversifier. Et c'est ce que nous avons compris très rapidement, au travers d'ailleurs du deuxième secteur d'activité qui devait partir sur l'enclave des Papes et que nous avons retenu, qui est la maison familiale et rurale, qui forme sur les questions agricoles, avec en lien avec l'initiative Seuil de Provence, qui permet de faire en sorte l'implantation d'agriculteurs sur le territoire et de l'aide à l'installation. Parce que nous avions travaillé aussi avec la Chambre d'agriculture pour faire en sorte que ceux qui ont 55 ans et qui ne savent pas à qui vont donner leur exploitation agricole, on puisse y retrouver des repreneurs. Et je suis très content que sur ce territoire, à Bolène, il y ait autant de jeunes qui puissent bénéficier de l'accompagnement que nous avons eu sur la diversification de cette économie dite classique, notamment sur la question du nucléaire et de l'activité du nucléaire et de toutes les filiales, de la plomberie, chaudronnerie, etc., qui sont les activités. Donc, on est sur un sujet qui me semble majeur, celui de, et en même temps, sur celui de la formation, parce que c'est une compétence que l'Interco a. J'aurais aimé faire un centre de formation, mais j'ai été contraint par les données financières, et je pense qu'il faut savoir être raisonnable, notamment sur le projet que nous avions initié, que nous souhaitions voir sur l'ancienne gendarmerie route de Mondragon, dont je vous rappelle quand même que le prix du bâtiment est à 1 987 000 euros, alors qu'il faut faire deux ou trois fois le montant pour pouvoir le réhabiliter. Mais je suis très content que dans ce territoire, on ait par exemple une antenne de l'Université d'Avignon, en licence d'agroécologie, en lien avec la maison familiale et rurale, parce que nous avons su les capter et faire en sorte d'être là. Ensuite, il s'est agi de faire un contrat local de développement de l'économie sociale et solidaire avec les associations et les fondations et les mutuelles, parce qu'elles sont très nombreuses sur ce territoire. Là aussi, on contribue à ça. On a créé le CENOV, ça me donne l'occasion, j'ai vu le président dans le public, de le saluer, le club d'entrepreneurs du Nord-Vaucluse, qui permet de fédérer et d'avoir une seule interface vis-à-vis des besoins, etc. Nous avons créé, madame, les cinq associations de commerçants du territoire qui n'existaient pas avant que nous arrivions et qui a permis de coordonner un FISAC qui est venu accompagner les commerces de centre-ville et développer la vie dans les commerces. Et enfin, au travers toujours du développement économique, nous avons fait, et j'en suis très heureux, je signe le bail demain après-midi, la venue de deux nouveaux médecins qui permet de développer les professions libérales sur le territoire et de faire en sorte que l'on puisse faire en sorte de répondre aux besoins des populations. Ça me semble majeur. La deuxième chose, c'est qu'il faut, pour développer l'économie, développer du foncier, parce que sans foncier, on ne peut pas mettre d'entreprise, et sans entreprise, on crée difficilement de l'emploi. Et donc, c'est ce que nous avons fait. On aurait pu garder ce zonage but à gaz, ce quartier qui n'est pas développé. On a fait en sorte d'acheter ces 7 hectares. Vous verrez tout à l'heure, on vote les tarifs de commercialisation pour faire en sorte de pouvoir ouvrir à la commercialisation ces industries qui pourront s'installer. Et on l'a fait partout où on a pu le faire, sur la Zande, parce qu'il y a des lots qui ne voulaient pas se vendre ou qu'il y avait peu de prospects. On a fait un hôtel d'entreprise à la Motte-du-Rhône qui est plein et qui, à 65 ou 70 euros par mois, vient répondre à des besoins. Et on a même pris, contrairement à ce que peuvent dire des fois l'opposition, on a même pris des décisions qui viennent trancher. Oui, nous avons refusé le projet du pôle économique parce qu'il était à 3,7 millions, 1 million de plus que le projet initial qui était à 2,7 millions. Et donc, je n'ai pas engagé la collectivité dans ce chemin-là parce qu'il était disproportionné par rapport à notre enveloppe financière et il était disproportionné par rapport aux besoins que nous avions faits, c'est-à-dire des boxes qui étaient extrêmement grands, qui faisaient des loyers extrêmement chers et donc qui ne répondaient pas aux besoins du territoire, puisque les besoins du territoire, à l'époque, étaient du locatif et non pas de l'acquisition. C'est aussi pour ça que la Zande a mis du temps à se développer, parce que les gens ne voulaient pas acheter les parcelles. Et surtout, l'artisan voulait prendre des espaces réduits par rapport à des grands ensembles. Donc je crois qu'on est allé sur plusieurs... On n'est pas allé assez loin, Madame Ricard, je vous l'accorde bien volontiers. Je crois qu'on a encore à faire, on peut faire encore mieux sur la question du développement économique, recenser mieux, ajuster plus, faire en sorte de mettre de la typologie d'entreprise, comme vous le dites. On a commencé à le faire, puisqu'on voit que sur la croisière, on est sur de l'agroalimentaire. On a déjà les Mets de Provence, la coopérative fruitière. On va développer sur une partie ça. On a vu que sur la Zande, on avait de l'activité industrielle. On a vu qu'il y avait Rolls-Royce, etc. On voit que sur la ZAC, on est plus sur de la logistique. Mais tous les documents d'orientation qui ont été créés en 2013 par mon prédécesseur a déjà initié ce débat-là. Donc, j'entends ce que vous dites. On aurait pu aller plus loin. On aurait pu faire mieux. Mais sur les orientations, je pense qu'on a, par rapport à quand on est arrivé, fixé des orientations qui permettent quand même de dire qu'ici ou là, on a pu développer et on va continuer à développer. On a des pistes de développement sur la zone du Sactar, on a des pistes de développement sur d'autres zones pour faire en sorte de développer les zones d'activité et donc de créer des entreprises. Je crois qu'on va s'arrêter là, M. Massard, parce qu'on est resté assez longtemps sur ce sujet. Je vous propose, M. Massard, de passer aux voix. Vous aurez l'occasion de vous exprimer pendant ce conseil, mais sur cette confirmation en considération des éléments qui précèdent le principe du transfert en pleine propriété, de faire en sorte de proroger l'autorisation accordée par délibération du 18 décembre 2018 et de confirmer le prix d'1 811 640 euros, dans la mesure où ces terrains ont pleinement vocation à être aménagés et construits pour des activités de logistique. Qui s'abstient? Monsieur André, Madame Ricard, Monsieur Basté, qui est contre? Abstention de M. Besnard. Dossier adopté à la majorité avec M. Massard. Question suivante. Il s'agit du dépôt de dossier de la DIG. C'est ça? Non, j'ai sauté une question. M. Pérez, sur la signature de la charte zéro déchet plastique et engagement dans la mise en œuvre d'actions pour la diminution des déchets plastiques. M. Pérez, nous avons consommé pas mal de temps. Si on pouvait, surtout moi. Si on pouvait résumer les prochaines délibérations, parce qu'il y en a 30, on n'en est qu'à la 6e. Merci.
Je vais faire beaucoup plus court. Après la ZAC, le ZAC plastique, pardon, permettez-moi le mot. Des millions de tonnes de déchets plastiques finissent en mer chaque année, on le sait, proviennent 80% de sources terrestres. Les prévisions les plus pessimistes annoncent en 2050 plus de déchets plastiques dans les mers que de poissons. Donc, consciente de cet enjeu, la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur a engagé une politique forte pour atteindre zéro déchet plastique en Méditerranée d'ici 2030. Cette action est inscrite au plan climat, une COP d'avance. Et cette action s'inscrit aussi dans un des objectifs phares du plan national de biodiversité. Il s'agit pour ça de sensibiliser à la prévention des déchets plastiques, de prévenir et utiliser modérément les matières plastiques et de gérer et valoriser ces déchets plastiques. La demande s'adresse aux collectivités territoriales, aux intercommunalités, aux entreprises, aux établissements scolaires. Signer la charte, c'est intégrer une communauté de signataires, bénéficier d'un accompagnement assuré par l'Agence régionale pour l'environnement et la biodiversité, de valoriser une démarche auprès des partenaires et d'atteindre des objectifs de réduction des pollutions plastiques. Les dépenses éligibles dans cette action concernent l'animation, la coordination de la démarche, les dépenses de communication liées à la démarche, les dépenses d'investissement liées à la mise en œuvre du projet, les dépenses d'études d'impact environnemental. Le montant de l'aide ne dépassera pas 80% du financement public sur le montant des dépenses éligibles, avec un plafond de 50 000 euros d'aide de la région. Il est donc question ici pour l'Assemblée d'approuver les termes de cette charte d'engagement zéro déchet plastique, de désigner un élu, un agent technique référent, de remplir le questionnaire de la charte, évidemment, de communiquer sur les actions engagées et les résultats obtenus auprès de l'Agence pour l'environnement et la biodiversité. Président.
Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Besnard.
Merci. Question, pas vraiment. J'ai fait de longues remarques en commission environnement. Alors, je vais résumer très clairement ici. On est sur l'archétype de l'enfer pavé de bonnes intentions. On ne va pas tout passer en revue. Allez, un exemple. On passe aujourd'hui des heures dans le système scolaire, dans l'éradication nationale, à sensibiliser les mômes sur les déchets plastiques, le développement durable, etc. et tout,
alors qu'on n'est absolument plus capable de leur apprendre à lire correctement. Ce n'est pas moi qui le dis. Il y a des, statistiques.
S'il vous plaît.
Il y a des statistiques officielles qui donnent des chiffres extrêmement parlants, mais inquiétants, au niveau de l'alphabétisation. Donc, tout cela étant dit, que la région, en plus, prenne cette initiative de charte, me paraît, mais alors, d'une vanité inouïe, lorsque l'on sait que la région, par ailleurs, entretient, au détriment de nos agriculteurs provençaux, entretient des rapports financiers, bien entendu, de subventions importantes avec des producteurs de l'autre côté de la Méditerranée, dont, et encore une fois, personne ne l'ignore, il y a des chiffres très clairs qui n'ont jamais été démentis. Pour faire simple, en une paire de semaines, la face sud de la Méditerranée envoie autant de pollution que la face nord pendant un an. Et voilà, donc cette charte pour moi, mais bien sûr que je sais que c'est impopulaire ce que je dis, tout le monde aujourd'hui vénère non seulement la petite jeune fille là-haut, mais tout ce qui est sensibilisation à l'environnement. Là, on est véritablement dans le coup de sabre dans l'eau. Hein. Et problème systémique, l'éducation à la réduction des déchets, elle doit se faire autrement qu'à renfort de grandes subventions et de comités, encore une fois, d'élus ou pas élus, mais voilà, bon. Je me tais. Je m'abstiens totalement.
Merci. Y a-t-il d'autres interventions ? Madame Ricard.
Oui, Président, moi je voudrais me réjouir que la région soit réactive sur ce sujet, parce que c'est un sujet qui est lourdement, très lourdement impactant pour la survie sur notre planète. Lorsqu'on a entendu les annonces du ministre Poisson, Poisson récemment, c'est avec déception que j'ai entendu le décalage des engagements dans les dates. Donc que la région soit réactive et propose un budget sur ce sujet, je m'en réjouis. J'espère qu'on saura saisir toutes les opportunités sur notre territoire, parce que c'est à condition qu'on s'y mette tous que les choses avanceront plus vite. Et je vous propose que l'on commence dès la prochaine séance en buvant de l'eau qui viendra des brocs en verre et dans des verres en verre. J'ai dit président.
Bien, monsieur Massard.
Je voulais juste rajouter une chose dans tout ça. Il manque quelque chose. Il manque le comportement de chacun.
S'il vous plaît.
Et l'éducation.
Oui.
Qui fait qu'on n'aurait pas à traiter ce genre de problème aujourd'hui si chacun se comportait convenablement par rapport oui. au respect de la nature, par rapport à des déchets qu'on voit sur le bord de la route, des McDo, des machins. Donc il y a aussi, dans le cadre de ce que vous entreprenez là, à côté, une connotation très forte de l'éducation et du comportement de l'individu. Hein ? Là, par contre, chacun pourrait être individuel pour cette action-là. Merci.
Bon, très bien, on a fait le tour. Je suis très heureux d'accompagner cette charte. On va réduire, nous, nos plastiques dans la cuisine centrale et on va mettre en place, on a déjà commencé, le plan climat-énergie territorial. Et c'est à ces deux titres-là, principalement, qu'on mettra des actions sur ce sujet. Qui s'abstient ? Monsieur Besnard, qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité, à la majorité, pardon, avec Monsieur Massard et Monsieur André. Question numéro 7, il s'agit du dépôt de dossier DIG, des digues GEMAPI, Monsieur Perron.
Donc, vu le code général des collectivités territoriales, vu le code de l'environnement, vu le transfert obligatoire de la compétence GEMAPI à la communauté de communes Ronde l'Est-Provence au 1er janvier 2018, considérant que la CCRLP est compétente pour intervenir sur les cours d'eau des communes de Wollen, La Motte-du-Rhône, Mondragon et La Palue, les digues du Lauzon situées à l'est et à l'ouest du canal d'Anzère à Mondragon et les digues du Rhône situées sur les communes de la Motte-du-Rhône, La Palue et Mondragon. Il est donc proposé que le président de la communauté de communes puisse solliciter M. le préfet de Vaucluse le lancement de la procédure nécessaire et notamment l'organisation de l'enquête publique nécessaire à la déclaration d'intérêt général sur le territoire de notre communauté de communes. Ils ont proposé au Conseil communautaire d'approuver les demandes d'autorisation de lancement des procédures réglementaires, l'entretien concernant les déclarations d'intérêt général sur l'entretien des digues du Rhône, l'entretien des digues du Lozon situé à l'est du canal, l'entretien des digues du Lozon situé à l'ouest, l'entretien des cours d'eau situés sur les communes de Bourlaine, La Motte, Mondragon et La Palue. Monsieur le Président.
Merci. Juste préciser qu'on a mis 900 000 euros sur 2018 concernant les digues, notamment les digues du Lozon au titre du budget 2018 et que là, nous sommes sur une DIG pour 2019. Y a-t-il des questions ? Monsieur Basté.
Oui, il ne s'agit pas d'une question, juste une remarque au travers de ces diverses conventions qui vont suivre. Il apparaît que administrativement, on va contacter, comme ça se fait pour le LES, les propriétaires pour les informer de ce qui va être fait et de ce qu'ils auraient pu faire eux-mêmes et qu'on prend leur place. Moi, j'aurais juste un souhait, c'est qu'à un moment donné, on puisse se rapprocher des gens qui y vivent et qui, je pense notamment aux agriculteurs qui exploitent en bordure ces choses-là, parce que les propriétaires ne sont plus les gens qui vivent au bord des digues, au bord des mares et tout ça. Et qu'à un moment donné, il faut pouvoir aussi les consulter, parce que j'ai vu qu'il y avait des dates pour le faucardage, des choses comme ça, c'est des choses qui sont respectées. Mais on passe après, au travers de ça, sur des phases administratives. Et il y a effectivement peut-être plus de blé, plus de tournesol. Mais s'il y a un réseau d'irrigation, le réseau d'irrigation, il passe dans le broyeur comme le reste. Donc, à un moment donné, voilà, remettre un peu de lien social par rapport au territoire et que tout ne devienne pas uniquement administratif. Recevoir des recommandés pour dire, voilà, on va passer, nettoyer la maille ou quoi que ce soit. Mais qu'on remette un peu ce lien social, parce qu'à une époque où les syndicats des mailles, syndicats des digues, il y avait des représentants, des élus qui étaient du terrain, j'ai bien peur que demain, dans cette assemblée, les gens qui sont purement sur le territoire soient plus forcément trop représentés. Je parle principalement du monde agricole. Voilà. Donc c'est important.
Vas-y.
J'ai bien dit que je souhaitais que sur l'avenir, ça se fasse mieux, parce que les gens qui sont prévenus et sur ce qui est marqué dans ces conventions, c'est bien les propriétaires qui sont informés, et ça se passe pour le LES de la même façon. Or, les propriétaires ne sont plus les gens qui travaillent. Donc, effectivement, à un certain moment, on est averti, mais dans, allez, je dirais, 95% du cas, on voit le faucardage se mettre en place et puis il est fait, quoi. Voilà. Donc, qu'on puisse améliorer ça. Après, si personne veut l'améliorer,
non, mais y a pas de problème.
On continuera.
Y a-t-il d'autres interventions ? Je soumets aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Chers collègues, ma directrice générale des services me rappelle à l'ordre en me disant que sur le rapport numéro 6, il y avait un alinéa qui consistait à désigner un élu, un agent technique référent zéro déchet plastique, et que nous n'avons pas désigné l'élu. Alors je vous propose dans un premier temps, si vous l'acceptez, qu'on vote à main levée l'élu que nous proposons, qui est M. Rodolphe Pérez, vice-président en charge de l'environnement, sur ce sujet-là, et qu'on nomme le responsable environnement, M. Servet, l'agent technique référent. Sur cette question-là, est-ce que votre vote change par rapport à ces modifications du nom ou est-ce qu'elle reste dans les mêmes orientations ? C'est toute ma question. Il n'y a pas d'observation ? Vous restez sur le vote de l'abstention, comme vous aviez fait ? Très bien. Très bien, non, mais je précise juste. Merci, chers collègues, désolé pour ce contretemps. Question numéro 8, il s'agit d'une convention d'objectifs et de financement pour le contrat local d'accompagnement à la scolarité 2019-2022. Monsieur Soulavi.
Oui, bonsoir à tout le monde. Le 24 novembre 2017, on a approuvé une convention pour le service commun Action Jeunesse. Dans ce cadre Action Jeunesse, l'Interco souhaite développer des actions en faveur des jeunes sur l'ensemble du territoire. C'est pour cela que dans le cadre d'un contrat local d'accompagnement de la scolarité, le CLAS, de la Caisse d'allocation familiale s'inscrit dans les politiques éducatives territoriales qui visent au renforcement de l'égalité des chances des enfants et des jeunes et en courant à la prévention des difficultés des enfants en lien avec leur scolarité. C'est pourquoi je vous demande d'approuver les termes de la convention qui vous est jointe au présent document, les termes de convention d'objectifs de financement, intervenir avec la caisse d'allocation familiale, qui a pour but de fixer les modalités d'intervention et de versement de la prestation de ce service local d'accompagnement pour la scolarité et d'autoriser le président à la signer.
Merci. Y a-t-il des questions ? Je soumets aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Question suivante. Il s'agit de convention de partenariat entre la communauté de communes Rhône-Est-Provence et le centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse en faveur du développement économique local et de l'attractivité territoriale. Monsieur Dussargues.
Oui, Président, vu le code général des collectivités territoriales, vu l'avis de la commission du développement économique du 3 décembre dernier, vu l'avis du bureau communautaire en date du 10 décembre dernier, vu le projet de convention d'adhésion au centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse en faveur du développement économique local et de l'attractivité territoriale, 6 juin annexé. Sachant que le 3-12 en commission, nous avions énuméré certaines choses. Et nous proposons ce soir l'adhésion au centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse afin de mettre la culture au service du développement économique local et de l'attractivité territoriale. La culture, les activités culturelles et les événements que peuvent être proposés par le centre dramatique pourront en effet contribuer au développement territorial de la communauté de communes en tant que, premièrement, vecteur d'insertion professionnelle, deuxièmement, de facteur d'attractivité territoriale et de développement touristique, par exemple en amenant la culture à proximité des entreprises et de ses salariés, troisièmement, l'outil de dynamique d'entreprise, quatrièmement, le moteur de l'économie sociale et solidaire et créateur d'emplois, plus de mixité sociale. Le présent partenariat est une convention d'adhésion qui fera chaque année l'objet d'un travail collaboratif entre la communauté de communes et le centre dramatique afin de définir le programme d'action pour l'année à venir. À ce titre, le centre dramatique s'est rapproché de toutes les intercos du Haut-Vaucluse pour conventionner avec toutes. Les 2 euros habitants viendront couvrir les actions en lien avec le développement éco et une partie des frais de fonctionnement de l'association. En résumé, il s'agit donc d'un partenariat complémentaire aux actions et événements proposés par le centre dramatique aux communes où on est davantage sur l'éducation artistique, notamment à destination des écoles. Bien, alors considérant que la communauté de communes, dans le cadre de sa politique de développement territorial, souhaite s'associer aux actions du centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse, considérant que la convention 6 jointe conclue pour une période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, formalise l'adhésion de la communauté de communes Rhône-Est-Provence à l'association du centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse. Considérant par le biais de cette convention, la communauté de communes Rhône-Est-Provence s'engage à verser une cotisation annuelle correspondant à 2 euros par habitant, soit 48 206 sur la base de la population légale 2016. Donc il est donc proposé au conseil communautaire d'approuver le projet de convention d'adhésion au centre dramatique des villages du Haut-Vaucluse en faveur du développement économique local et de l'attractivité territoriale, de désigner, Monsieur le Président, un représentant pour siéger dans les 6 instances de gouvernance de l'association et enfin de vous autoriser à signer l'ensemble des actes s'y rapportant.
Merci. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas... Oui, Monsieur Basté.
Juste, Monsieur le Président, pour vous signaler que je ne prendrai pas part au vote compte tenu de mon implication dans cette structure.
Très bien, j'ai compris. Y a-t-il d'autres interventions ? Donc avant de soumettre aux voix, il est proposé de désigner un représentant pour siéger dans les instances de gouvernance de l'association. Si aucun de nous s'oppose à ce qu'on le fasse à main levée, il est proposé Monsieur Guy Soulavie. Donc... approuver le projet de convention, désigner un représentant pour siéger dans les instances et m'autoriser à signer l'ensemble des actes s'y rapportant, M. Guy Soulavie, parce qu'il est en charge de la mutualisation du réseau intercommunal qui touche à l'ensemble et donc qui semble surpris, même si nous l'avions déjà dit en conseil des vice-présidents. Qui s'abstient ? Monsieur André, qui est contre ? Dossier adopté. À la majorité avec le Rassemblement national et Monsieur Massard. Question numéro 10. Il s'agit du... Et Monsieur Basté qui ne prend pas part au vote.
Question numéro 10, il s'agit du renouvellement de la, du règlement d'attribution des aides à l'immobilier d'entreprise. Monsieur Dussargues. Merci, M. Dussargues. Y a-t-il des questions ? M. Massard.
Ce n'est pas chiffré, c'est normal ? L'aide, sur, elle n'est pas chiffrée.
Sur l'aide ?
Oui.
Non, c'est un pourcentage, c'est ça ?
Ah, c'est un pourcentage, d'accord, d'accord, ouais, d'accord. C'était une question, d'accord. Okay.
C'est un pourcentage en fonction du dossier, il y a une commission d'attribution. Ce que disait Monsieur Dussargues, il y a eu 700 000 euros de travaux et il y a eu 90 000 euros, 95 000 euros de, d'aide. Voilà. Ça a permis à 10 dossiers ouais, de, d'être suivis.
Merci, Président.
Y a-t-il... Vas-y, si tu veux.
Pour répondre un peu plus précisément à la question, effectivement, il y a des critères d'aide et des pourcentages d'aide en fonction. Donc, ça peut être aussi bien une aide au loyer qu'une aide à l'acquisition, qu'une aide à l'aménagement. Ça part de 5 à 20% en fonction du montant des travaux et du montant de l'aide sollicitée.
C'est quand même des sommes d'argent qui sont versées.
Oui. Y a-t-il d'autres questions, Monsieur Basté?
Oui, juste à apporter une précision, c'est quand même une aide importante qui est faite aujourd'hui sur, et qui apparaît comme étant appréciée par ceux qui la demandent. Et je crois qu'on ne se moque pas des entreprises qui s'installent au travers du montant de ces aides. Et, voilà. Non, mais c'est pour apporter une précision. Voilà, c'est,
Merci, M. Basté. Y a-t-il d'autres interventions ? Je soumets aux voix. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous en remercie. Question numéro 11. Il s'agit d'un avis de la Chambre régionale des comptes sur les budgets 2017. Monsieur Grappin.
Oui, vous avez bien entendu, on va faire un retour vers le passé, on va s'attaquer au budget 2017. J'aurais été tenté de vous dire tout ça pour ça, mais on va quand même venir creuser un petit peu ce qu'il y a dedans, et c'est dommage que les représentants de la ville de Bolène ne soient pas là, parce que...
C'est peut-être pour ça qu'ils sont partis.
Je sais pas. Je fais très vite un... Hein, certains des représentants, mais ceux qui sont aux manettes et ceux qui ont intenté l'action en contentieux ne sont plus là. On fait un bond très loin en arrière, on remonte en mars 2017, vote du budget 2017, on remonte un petit peu plus en amont en arrière en février 2017, où on est sur le rapport d'orientation budgétaire, et la commune de Bolène attaque les délibérations actant le vote du budget et des budgets annexes sous... le motif que l'information qui aurait été transmise aux différents conseillers communautaires n'aurait été pas suffisante, notamment dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Le tribunal administratif, dans une décision du 25 juin 2019, a balayé bon nombre d'arguments de la commune de Bolène. Je vous fais très vite. La commune de Bolène avait évoqué le fait que la note de synthèse était insuffisante et que les élus n'avaient pas été destinataires de ces éléments-là. Le tribunal administratif balaye cet argument. Dans un deuxième point, la ville de Bolène soutient que le rapport qui avait été remis aux élus communautaires n'était pas suffisant et qu'aucune information n'avait été transmise sur certains des aspects, budget annexe, etc. Le tribunal administratif a balayé bon nombre de ces dispositions, et notamment celle aussi au travers de laquelle aucune information sur les données des ressources humaines n'aurait été présente. Ce que retient le tribunal administratif, c'est qu'effectivement, il reproche à la communauté de communes, de n'avoir pas, dans son débat d'orientation budgétaire, parlé de la ZAND et du SPANC. Il aurait fallu, comme on a pu le faire en 2019, que figurent au moins deux phrases en disant le budget SPANC sera reconduit à l'identique, le budget ZAND retracera les différents éléments. Ces deux phrases-là n'ayant pas été prises en compte, le juge Duralex Sedlex applique la loi et à ce titre-là annule les budgets de la ZAND et du SPANC, et ces deux budgets annexes étant rattachés au budget général, annule le budget général. Juste un petit bémol, si on s'était intéressé, et on aurait pu faire de la même façon côté de la communauté de communes, si on avait pris en compte le débat d'orientation budgétaire de la ville de Bolène, où sur les 38 pages, 32 sont un couplet dithyrambique entre la communauté de communes, seulement 6 pages concernent les orientations budgétaires, et les budgets annexes de la ville de Bolène ne sont pas cités dans le débat d'orientation budgétaire. Que nenni, nous ne l'avons point fait, les enjeux sont ailleurs et ne sont pas dans les informations, mais bien ce que l'on fait des chiffres. Sur cette base-là, face à cette décision du tribunal administratif, il y a trois solutions possibles. La première, c'était de faire appel devant la juridiction supérieure au regard d'un certain nombre d'éléments et des insuffisances que j'ai pu lever. Et la plus grosse notamment, c'est que le tribunal administratif fait référence à une délibération du conseil municipal, alors qu'on est un conseil communautaire, ce n'est pas la même date. Voilà. On a un certain nombre de choses sur lesquelles on aurait pu y aller, on n'y est pas allé. Le deuxième aspect, si l'horaire était plus cocasse, c'était qu'on refasse un débat d'orientation budgétaire 2017. On passait une séance et on refaisait le débat d'orientation budgétaire et on faisait une deuxième séance où on votait le budget 2017. Avouez que ça aurait été cocasse alors qu'on va voter les budgets 2020, qu'on refasse celui 2017. On a dit quand même qu'on devait faire plus sérieux et que les habitants de notre territoire attendaient davantage. Et la troisième décision qu'on est venu prendre, c'est laisser le cours tel qu'il est prévu, enfin le cours naturel prévu là par la réglementation, c'est que le préfet sollicite la Chambre régionale des comptes, et c'est ce qui est fait dans cet arrêt, où la Chambre régionale des comptes revient, confirmer les budgets 2017 en les adaptant sur la base des restes réalisés et des éléments comptables. C'est un peu kafkaïen, c'est qu'on se retrouve avec un budget qui n'est pas un budget, mais qui est un budget post-compte administratif. Tout le monde en fait ce qu'il en veut. Il se trouve que le compte administratif a été exécuté, le compte de gestion a été exécuté, personne n'a levé de recours, et qu'on a maintenant un budget primitif et des budgets annexes 2017 qui ne correspondent pas à grand-chose. Voilà, c'est simplement cet aspect-là. Juste un petit mot à l'attention de l'opposition municipale de la PALU, qui avait attaqué en nous disant que au travers de ça, ça allait remettre en cause les finances de la PALU et de l'Interco. Ces budgets étant rétablis, je pense que vous rétablirez aussi le message de votre côté. Merci. Et on est simplement donc pas appelé à prendre acte de cette décision de la Chambre régionale des comptes.
Merci. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, nous passons à la question numéro 12. Il s'agit de la correction et du rattrapage d'amortissement sur les exercices antérieurs. Monsieur Grappin.
On est, enfin, comme la communauté de communes, comme toute collectivité de plus de 3500 habitants, est tenue de mettre en œuvre les dotations aux amortissements des immobilisations, et ça constitue une dépense obligatoire. Ce qui a été constaté au travers des rapprochements qui se font classiquement entre le comptable et la collectivité, des omissions ou des comptes, des calculs d'amortissement non faits de manière globale et définitive, et on est notamment en liaison avec une délibération qu'on avait prise il y a peu de temps, où on était venu définir des durées d'amortissement d'un certain nombre d'équipements, et notamment certains équipements liés à la gendarmerie, qui n'avaient pas, pour lequel aucune date avait été mise en œuvre, sur lequel on a défini des dates de 25 ans de calcul, et la réglementation nouvelle changeant, on se retrouve avec des dotations d'amortissement qui n'ont pas pu être prises en compte. Ce qu'il vous est proposé ce soir, c'est qu'on vienne corriger ces aspects-là, qui n'ont pas de conséquences budgétaires, puisqu'on n'est que sur des opérations d'ordre, qu'on vienne, donc sont listés les différents comptes 28, donc c'est les comptes des dotations aux amortissements, qui présentent des insuffisances et de façon à ce qu'on vienne les créditer au travers d'un débit du compte 1068, qui est largement excédentaire puisque au 31 décembre 2018, il était doté d'à peu près 9 780 000. Et donc on autorise le comptable public à effectuer un prélèvement sur ce compte 1068 d'un montant de 712 774,76. Par opération d'ordre, on n'est pas sur du budgétaire, c'est simplement remettre à jour les comptes de l'actif de façon à ce qu'ils soient tenus de la même façon des deux côtés. Et donc de pouvoir autoriser le comptable public, hein, c'est bien le percepteur qu'on autorise à venir faire cette opération, à venir effectuer ce prélèvement.
Merci. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je soumets aux voix. Qui s'abstient? Madame Ricard, qui est contre? Dossier adopté à la majorité. Monsieur Besnard, Monsieur Massard, Monsieur André et Monsieur Basté. Question numéro 13, il s'agit de la reprise de véhicules mis à disposition de plein droit au titre de la compétence collecte des déchets ménagers. Et nous sommes très heureux de la désaffectation de ce véhicule Ben pour Monsieur le maire de Mondragon qui y tenait particulièrement. Monsieur Grappin.
On est dans le même esprit d'une délibération similaire qui avait été prise lors de notre précédente séance qui visait un équipement identique pour la commune de Mornas qui n'avait pu être fait pour la commune de Mondragon faute d'avoir la délibération de la commune de Mondragon, la commune de Mondragon ayant délibéré. On est sur le même principe, c'est qu'il vous est proposé qu'on vienne approuver la désaffectation du véhicule Ben Ordures Ménagères qui avait été mis à disposition de la communauté de communes pour l'exercice de la compétence déchets au regard des caractéristiques de ce véhicule, etc., et d'approuver la restitution de ce bien à la commune de Mondragon qui en fera un bon.
Merci. Y a-t-il des questions? Je soumets aux voix. Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Merci pour Monsieur le maire de Mondragon. Question numéro 14. Une autorisation à engager, mandater et liquider les dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2020. Monsieur Grappin.
On est sur une disposition classique et le jour où le législateur voudra bien changer les règles, ça évitera que 36 000 collectivités de France délibèrent de la même façon. Le principe, de façon à ce qu'on ait une continuité dans l'exercice de la gestion du budget, plus spécialement des dépenses d'investissement, il vous est proposé que l'on puisse autoriser le président à engager, mandater les liquides des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2020, dans la limite du quart des crédits qui avaient été inscrits sur l'exercice 2019. Pour faire court et sans lire toutes les lignes, on avait des crédits ouverts en investissement à hauteur d'un peu plus de 22 millions. Et donc le président était autorisé, enfin, vous avez demandé d'autoriser le président à pouvoir engager, mandater et liquider les dépenses dans la limite de 5 500 000 18 heures. Et ces montants-là étant déclinés par chapitre.
Merci. Y a-t-il des questions? Je soumets aux voix. Qui s'abstient? Monsieur André, Madame Ricard, Monsieur Basté, qui est contre? Dossier adopté à la majorité. Avec M. Besnard et M. Massard. Question suivante, il s'agit d'une question concernant la décision modificative du budget du SPANC. M. Grappin.
Donc au travers de ce budget hein, donc, qui vient constater, et on est là sur des admissions à la fois en non-valeur d'un titre de recette, c'est-à-dire que quelqu'un qui a dû payer son éco pour ce qui concerne le contrôle d'un équipement ne s'est pas acquitté de cette somme-là et les poursuites menées par le percepteur n'ont pas conduit. Donc on est là pour une admission en non-valeur d'un montant de 65 euros et de l'annulation de titres sur des exercices antérieurs d'un montant de 370 euros. Et donc on est lié là sur la reconnaissance, effacement de dette. Donc on a des charges au chapitre 65 ou au chapitre 67 au total de 435 euros qu'il convient d'abonder puisqu'il ne figurait pas au budget. Et donc on vient l'alimenter en venant retrancher ces 435 euros au chapitre 11.
Merci. Y a-t-il des questions? Je soumets aux voix. Qui s'abstient? Madame Ricard, qui... Non, pardon. Alors, qui s'abstient? Personne. Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 16. Il s'agit cette fois d'une décision modificative numéro 2 au budget principal. Monsieur Grappin.
Enfin, cette décision modificative repose sur deux chiffres hein, que vous retrouvez à plusieurs endroits. Le premier, pour un montant de 297 221,72 euros, on vient intégrer dans la comptabilité de la communauté de communes des frais d'études qui avaient été portés par le feu syndicat des digues de la Motte-la-Palue Mondragon. Donc là aussi, ces intégrations de frais d'études visent à alimenter des opérations d'ordre puisqu'on amortit les études suivies de travaux. Donc vous les retrouvez en opération d'ordre à la fois en dépenses d'investissement et en recettes d'investissement. Et par ailleurs, on vient constater des recettes d'un montant de 395 716,26 €, pardon, qui sont liés à la fois à des fonds DETR, dotation d'équipement des territoires ruraux, et différentes subventions qui ont été perçues dans le cadre de l'aménagement de l'île Vieille. On a pu ici en délibérer à différentes états. Fort de ces 395,716,26 € qu'on vient donc constater au chapitre 13 en recettes d'investissement, on vient compenser en venant réduire d'autant le virement de la section de fonctionnement à la section d'investissement. Le pourquoi, vous retrouvez ces éléments en diminution en section de fonctionnement. In fine, la section de fonctionnement ne bouge pas et en section d'investissement, on augmente le global de 297,220,72 € liés aux opérations d'ordre que j'évoquais précédemment.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Madame Ricard, Monsieur André, qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec Monsieur Basté, Monsieur Massard et Monsieur Bestard. Question numéro 17, il s'agit d'un fonds de concours. Alors, ça va vous paraître long, mais on va faire simple, je pense, pour les 18 délibérations qui arrivent. Concernant les fonds de concours de la commune de La Palue, qui avait jusqu'à fin novembre pour déposer ses demandes ou ses avenants au fonds de concours, ce qui explique que nous en avons beaucoup. Monsieur Grappin, question 17.
Conseil municipal de La Palue, ça peut faire une heure. Ça,
oui, non, mais on va faire
plus. On va le faire vite. Le premier point, c'est un avenant sur une opération. Donc, on est bien dans le cadre du fonds de concours qui permettait, comme l'a indiqué le président, à venir solliciter des fonds de concours sur la base d'une délibération d'un conseil municipal faite avant le 30 novembre et permettant d'exonérer d'honorer la dépense sur une durée de 2 ans. Le premier concerne un avenant où on vient revoir à la baisse le fonds de concours qui avait été attribué à la commune de La Palue pour le réaménagement de la place du Lavoir, eu égard à l'obtention par la commune d'une subvention au titre de la DETR. Et donc le fonds de concours qui était prévu initialement à 50 000 € finira in fine à 33 987,50 €. Et donc proposer que notre instance vienne arrêter ce compte définitif.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question 18. Fonds de concours La Palue, réaménagement de voirie. Monsieur Grappin.
Là, on est dans le sens contraire, un avenant, mais qui vise à venir réajuster à la hausse le fonds de concours qui avait été attribué à la commune de La Palue au regard des, notamment, aléas et retards qui ont pu être faits et les dernières opérations visées à ce qu'aux abords des écoles, la commune puisse porter des travaux de voirie qui permettent l'extension de la fibre. Au regard du constat de l'évolution de la dépense, donc les fonds complémentaires en termes de fonds de concours sont sollicités à hauteur de 21 913 €.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question 19. Il s'agit de fonds de concours à La Palue, acquisition de mobilier urbain. Monsieur Grappin.
Donc la commune de La Palue sollicite donc de la part de la communauté de communes pour ce qui concerne l'acquisition, le déploiement, l'installation de mobilier urbain divers et variés pour une dépense prévisionnelle de 70 000 €. Donc elle sollicite des fonds de concours à hauteur de 35 000 € dans ce mobilier urbain. On pourrait trouver par exemple l'habillage des conteneurs que déploie la communauté de communes.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 20. Il s'agit toujours d'un fonds de concours à la commune de La Palue. L'acquisition de véhicules et matériels pour les services techniques. Monsieur Grappin.
On est à la fois essentiellement sur l'acquisition de deux véhicules pour la police municipale et pour tout ce qui relève de l'action jeunesse essentiellement. Donc une dépense globale estimée à 80 000 €. Donc toujours sur la règle du 1 pour 1 des fonds de concours sollicités à hauteur de 40 000 €.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. Question numéro 21. Fonds de concours La Palue, acquisition de matériel informatique et mobilier divers. Monsieur Grappin.
Part de ce qu'on a pu faire chaque année pour nos enfants essentiellement, mais un peu pour les services, mais essentiellement pour ce qui se passe dans les écoles, c'est de venir acquérir du matériel informatique et divers mobiliers à hauteur de 20 000 €, et donc des fonds de concours qui sont sollicités à hauteur de 10 000 €.
Merci. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question 22. Il s'agit d'un fonds de concours sur l'acquisition de divers matériels et mobiliers à usage sportif, de loisirs et culturels sur La Palue. Monsieur Grappin.
Avec une précision, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est effectivement la communauté de communes a pu se voir confier la gestion de divers bâtiments pour ce qui concerne la construction, l'entretien, les grosses réparations. Mais il est toujours défini que tout ce qui a trait au fonctionnement et aux équipements qui soient à l'intérieur, que ce soit des équipements sportifs, une cages de hand ou des tapis dans une salle de danse, etc. C'est bien à la charge de la commune et au regard des échanges qu'on a avec le tissu associatif. Donc la volonté de la commune de La Palue de s'engager à venir renforcer l'ensemble de ce matériel à dotation, essentiellement à vocation et envers les associations pour une dépense de 80 000 euros, donc des fonds de concours sollicités à hauteur de 40 000 euros.
Très bien. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Question suivante. Il s'agit des travaux de réhabilitation de bâtiments et patrimoine communal, fonds de concours. Monsieur Grappin.
La commune de La Palue a fait le choix de conserver certains équipements et sans doute garder ceux qui n'étaient pas forcément en meilleur état. Et donc la volonté de sa part de pouvoir engager des travaux de réhabilitation, je pense notamment les travaux de voirie, de toiture pardon, à reprendre. Un coût prévisionnel arrêté à 150 000 euros, donc des fonds de concours sollicités à hauteur de 75 000 euros.
Très bien. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 24. Il s'agit d'un fonds de concours à La Palue sur des travaux de voirie. Monsieur Grappin.
Un programme de voirie d'hiver que la commune de La Palue envisage d'engager dans le centre ancien pour une dépense globale de 773 572 euros et des fonds de concours qui sont sollicités à hauteur de 338 000. On n'est plus sur la règle du 1 pour 1 parce que dans le même temps, la commune fait... mobilise le contrat territorial passé avec le département, donc des fonds de concours sollicités à hauteur de 338 000 euros. Et on clôra là le chapitre des fonds de concours pour la commune.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 25. Il s'agit d'un fonds de concours demandé par Madame le maire de Bolène sur l'acquisition de matériel informatique. Monsieur Grappin.
Je plaisantais, je disais que M. Morin avait un avis réservé, mais il l'avait mis un peu trop tard. Mais donc, ce dossier a été examiné en commission de finances comme les autres. Et donc, la mairie de Bolène sollicite la communauté de communes pour l'acquisition de matériel informatique à hauteur de 4 280,96 euros. Et donc, des fonds de concours sollicités à hauteur de 2 140,48 euros.
La majorité est pour. Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 26. Il s'agit de la création d'un budget annexe à la zone dite La Clastre à Mondragon sur un projet d'aménagement des parcelles intercommunales en zone commerciale à Mondragon. Monsieur Grappin.
Et sur des secteurs enfin, que certains, les Mondragonais, appellent la Chapelle, hein, pour ceux que si ça parle davantage, au bord de la Nationale 7, sur la partie sud. Et on est sur des terrains de la communauté de communes, mais à partir du moment où on fait plus de deux lots, on bascule sur une procédure qui s'assimile à du lotissement et de ce fait, comptablement, doit se traduire par la calèche.
On se demandait tous où c'était.
Bon, ça va. On est bien sur la calèche. Et donc, là où j'en étais, c'était de dire que à partir du moment où il n'y a plus de lots qui sont créés, on est sur une procédure de lotissement en termes possiblement de droit de l'urbanisme, mais s'agissant le pendant en termes de comptabilité nécessite qu'un budget annexe soit créé pour pouvoir procéder à la fois à l'aménagement et à la commercialisation. Donc ce qu'il vous est proposé ce soir, c'est de décider de la création de ce budget annexe il sera, son montant et son budget sera approuvé ultérieurement puisqu'on ne peut pas être dans un même temps sur la création et de l'alimentation d'un budget.
Merci. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? Qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question suivante s'agit justement de la commercialisation des 7 hectares de la zone de la croisière qu'on évoquait, notamment sur les tarifs de commercialisation de ces terrains, dont certains attendent depuis très longtemps d'ailleurs qu'on les commercialise. Monsieur Grappin, c'est à vous.
Vous avez quasiment tout dit, Monsieur le Président. S'agissant de la commercialisation de ces 7 hectares hein, sur le site de la croisière en lieu et place de feu Butagaz, les services des domaines consultés sur ce type d'opération ont évalué de manière moyenne la valeur vénale de ces terrains à 35 euros le mètre carré, ce qui conduit à une valeur globale en faisant la multiplication. Ce qu'il est proposé ce soir, c'est que, à la différence de ce qu'on avait pu faire sur la zone Notre-Dame de Mondragon, où chaque fois on avait une consultation des domaines qui se faisait au coup par coup et des prix qui étaient variables, qui dépendaient plus de la surface du terrain qu'autre chose, c'est de pouvoir travailler sur cette opération-là, travailler sur une segmentation des prix qui est liée à la visibilité que pourra avoir le terrain depuis la voie de desserte de la zone, enfin de la voie communale qui dessert cette zone d'activité. Et de pouvoir segmenter ça en trois lots, les terrains qui seront en bordure immédiate de cette voirie avec un prix de 39 euros le mètre carré hors taxe, hein, et je vous renvoie aux références de 35 euros tel que le fixaient les domaines de valeur moyenne, ceux qui seront en deuxième rang, un coût de 36 euros le mètre carré, et les terrains qui seront sur le troisième plan, donc qui auront moins de visibilité avec ce que cela signifie éventuellement sur l'attractivité de leur implantation, un coût au mètre carré de 33 euros. Donc il vous est proposé d'acter ces différents prix de façon à ce que chaque fois que l'on entérine des ventes, on fasse marcher de manière mécanique ces prix unitaires.
Et vous retrouvez dans la note de synthèse le découpage entre le zonage commercial et industriel que je précisais tout à l'heure. Monsieur Massard.
Juste une question qui me préoccupe, parce que c'est vrai qu'il y a une usine de briques là qui est en ruine depuis de très nombreuses années. Est-ce qu'elle est prise en compte dans la zone commercialisée ou pas?
Non, parce qu'on n'est pas de ce côté. On est du côté où il y a butagaz.
Je savais, mais
et on
ne
va pas plus loin.
Oui, d'accord. Et là, ils ne veulent pas vendre, c'est impossible. Parce que c'est vrai que autant ça faisait tâche quand on arrive de Suze-Larousse, mais là, ça fait tâche quand on arrive de Pont-Saint-Esprit.
Mais ce n'est pas prévu et c'est privé.
Et c'est vrai que pour l'image de Bolène, ça serait bien que ça se développe là aussi intelligemment. Je ne sais pas. OK, merci.
Y a-t-il d'autres questions? Monsieur Basté, pardon.
Oui, juste une remarque. Je suis toujours étonné que ces questions qui a priori touche le monde économique, ne soit jamais abordé en commission économique. Or, on aurait du temps, puisque la dernière a duré un quart d'heure. Donc
sur cette zone d'activité?
Bah oui, il y en a d'autres comme ça, et je n'ai pas relevé tout le long, mais on a débattu tout à l'heure sur un sujet qui était important, sur Pan-Europarc et tout ça, on n'en a jamais parlé en commission économique. Donc,
oui, c'est vrai.
Voilà, ça me dérange un petit peu, alors après,
non,
c'est juste une remarque.
Le rapporteur, parce que c'est passé en commission finance que... Que préside, c'est passé à la commission finance.
Non, mais que la commission finance en parle, je comprends.
C'est pas passé à la finance,
mais en plus Jean-Louis participe aux deux commissions, donc
c'est vrai.
Pourrait nous apporter l'information. Mais bon.
Y a-t-il d'autres interventions? Qui s'abstient? Madame Ricard, qui est contre? Donc Madame Ricard, Monsieur Bassé s'abstient. Qui est contre? Dossier adopté à la majorité avec Monsieur André, Monsieur Massard et Monsieur Besnard. Question numéro 28. Il s'agit de l'indemnité de conseil de budget allouée au trésorier. Ça, c'est un décret qui cadre ça. Il est proposé au Conseil communautaire, vu tous les arrêtés interministériels et les décrets, de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définie à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983. D'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% à compter du 1er décembre 2019 jusqu'au prochain renouvellement du Conseil communautaire. De dire que cette indemnité sera calculée sur les bases définies à l'article 4 de l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 et sera attribuée à M. Philippe Canova, receveur municipal, qui vient de remplacer Mme Roux au trésor public. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Massard.
C'est trop tard pour poser sa candidature.
Mais c'est la direction départementale des finances publiques qui nomme le trésorier principal. Vous pouvez postuler auprès de Bercy, vous avez peut-être des chances. Y a-t-il d'autres interventions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Question numéro 28. Il s'agit du renouvellement de la convention de mise à disposition du personnel. 29, pardon. Il s'agit de Madame Florence Héral du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 à hauteur de 500 heures par an, d'approuver la convention de mise à disposition annexée au présent rapport et de m'autoriser à signer toutes les pièces relatives à l'exécution de la présente délibération. Sur les services communs, y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année. Et nous nous retrouvons le 4 février. Le 5 février, pardon. Avec les élus bolénois, je l'espère.